Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous rendons gloire à Dieu qui nous donne le temps d'être dans sa présence pour ce dernier dimanche de l'année 2025 et en même temps pour ce dimanche qui clôture la semaine de Noël où nous nous rappelons de la nativité de Jésus et de la présence de Dieu parmi nous. Je vais vous inviter à lire avec moi deux textes bibliques. Le premier, celui d'Ésaïe, chapitre 35. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 10, c'est-à-dire tous les chapitres. Ésaïe, chapitre 35. Le deuxième texte sera celui de Luc, chapitre 2, le verset 8 à 14. Luc 2, 8 à 14. Je commence la lecture par Ésaïe, chapitre 35, le verset 1 jusqu'à 10, et je conduis la lecture dans le nom de Jésus. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme une narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en état, et la terre desséchée à source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'imbur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lions, ni le bête féroce, ne la prendra nul, ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Parole du Seigneur. Luc chapitre 2. Le verset 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, on peut lire les versets 14 ensemble, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème qui nous a été proposé pour conduire notre méditation est intitulé « La présence du Christ et ses cours pour affermir nos mains affaiblies ». La présence du Christ est un secours pour affermir nos mains affaiblies. Et vous comprenez pourquoi nous lisons ces deux textes bibliques. J'aime les textes d'Ésaïe qui commence par « qu'ils se réjouissent les déserts et la terre », qui commence par l'appel à la réjouissance. Le texte de Luc chapitre 2, le verset 10, où l'ange dit au berger, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une joie pour tout le peuple. » La présence de Christ était secours pour affermir nos mains affaiblies. Je vais commencer ce message en nous rappelant que l'un des plus grands miracles que le monde ait connu, c'est la naissance de Jésus-Christ. L'un des plus grands miracles qui se sont réalisés dans ce monde, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et quand je l'ai dit de cette manière, je ne vais pas seulement faire allusion à la naissance miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit, mais je vais rappeler que c'est le grand miracle parce que c'est la présence physique de Dieu au milieu de son peuple. C'est le moment où Dieu lui-même vient, il descend parmi le peuple. Ici, c'est Dieu qui vient faire son habitation parmi les hommes, qui accepte de porter le corps humain afin de palper la réalité du physique que l'être humain est en train de vivre. Et je vais dire en même temps, dans ce monde ici, vous pouvez tout perdre. Ne perdez jamais la présence de Jésus. Il peut arriver que vous passiez par des moments difficiles, que vous passiez par des conditions compliquées. Vous pouvez accepter de tout perdre, mais n'acceptez jamais de perdre la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, parce que c'est la grande chose et la grande bénédiction qu'il faut avoir dans ce monde. Pendant ces quelques minutes de méditation, je vais nous inviter à répondre à deux questions. Et quand nous aurons répondu à ces deux questions, nous allons clôturer par là le message d'aujourd'hui. La première question, quel est le sens de l'expression « mais affaibli » Parce que nous avons dit la présence du Christ est un secours pour affermir nos mains affaiblies. Qu'est-ce que nous voulons dire par les mains affaiblies? Les mains que Dieu vient secourir. La deuxième question sur laquelle nous allons répondre, pourquoi Jésus porte-t-il impérativement le corps pour nous secourir? Les deux questions-là sont les questions qui vont faire l'objet de notre méditation. Les mains affaiblies, Jésus qui vient nous secourir parce que nous sommes affaiblis, parce que nos mains sont affaiblies. Dans le langage biblique, la main, c'est la partie du corps qui est attachée à la force. La main, c'est la force. C'est l'image de la force. Alors lorsque nous parlons des mains affaiblies, cela symbolise le découragement. Cela symbolise la fatigue spirituelle. Cela symbolise la perte de toute forme d'audace. Cela symbolise quelquefois l'abandon. Des situations dans lesquelles vous êtes presque en train d'abandonner. On va dire que vos mains sont affaiblies. Il s'agit des moments qui nous plongent dans une lassitude. Lassitude plutôt dans les services ou dans la marche. Où on sent qu'au lieu d'avancer plus rapidement, on n'a pas le courage d'avancer. Ce sont les moments où nous nous trouvons devant la peur face à l'avenir. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Nos mains sont affaiblies. Ce sont les moments de fatigue qui sont causés par des combats prolongés. Des moments de fatigue qui sont causés aussi par la perte d'espérance. Lorsque ces situations arrivent dans notre vie, nous paraissons faibles. Vous savez, il y a des moments dans la vie où vous pouvez vous sentir faible. Même
la possibilité de prier, vous sentez que vous n'y arrivez pas et vous auriez plutôt des frères ou d'une sœur qui vous accompagnent dans la prière. Nous sommes affaiblis à travers ces situations, des situations comme celle-là. On peut donc dire que l'homme est défaillant ou l'homme est affaibli, que Dieu vient secourir dans notre vie, fait allusion à toutes les réalités physiques et spirituelles qui nous découragent et quelquefois nous rendent fatigués. Je vais par exemple y aller par des exemples très simples. Nos mains sont affaiblies lorsque nos entreprises ne marchent pas. Vous avez créé une entreprise, mais vous trouvez que l'entreprise marche difficilement. Vous êtes comme quelqu'un qui a les mains affaiblies. Les moments où les biens que vous avez acquis par votre propre force vont être pris en otage par d'autres personnes. Vous êtes affaibli. Les moments pendant lesquels les proches de vous, au lieu de vous encourager, ils vous découragent. Vous êtes affaibli. Les moments pendant lesquels, alors que vous avez la possibilité de faire quelque chose, mais vous sentez que vous n'y arrivez pas. Vous avez des grands projets, mais vous ne savez pas par où commencer. C'est un signe que vous êtes affaibli. Et dans les vocabulaires que nous utilisons ce matin, vous avez des mains affaiblies. Les moments pendant lesquels vous prenez du temps dans la prière, mais vous avez l'impression que Dieu vous a oublié, vous ne voyez rien de clair dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vos mains sont affaiblies. Alors Jésus, par sa présence dans le monde, il vient comme la solution à ces réalités que nous pouvons traverser et qui nous laisse les découragements, qui nous laisse être fatigués. Le texte que nous avons lu à Ésaïe chapitre 35, c'est un texte de promesse de Dieu. Le Seigneur qui regarde Israël dans un moment difficile, Israël qui est en train de passer par des situations de comment, ici dans le texte que nous avons lu, Israël est en train de connaître la menace de la Syrie qui vient l'attaquer. Israël presque prêt à perdre le courage. Et Dieu vient lui dire, fortifiez vos mains languissantes. Parce que les réalités que vous voyez, ce n'est pas encore la fin des choses. Le fait est que Dieu est là, signifie qu'il y a encore de l'espoir. Et quand vous lisez même le texte d'Hébreux qui va reprendre ce verset à Hébreux chapitre 12, verset 12. Redressez vos mains affaiblies. Lorsque vous passez par les moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'un encouragement. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, c'est encore possible. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, même si vos mains sont affaiblies, mais Dieu est encore là. Et c'est la promesse que Dieu vient faire à Ésaïe chapitre 35 pour rassurer son peuple qu'il est là, qu'il va agir et qu'il va accomplir sa volonté merveilleuse pour ce peuple ici. Alix chapitre 2, le texte que nous avons lu, la Bible dit, si vous regardez les contours de la naissance de Jésus, le peuple était dans l'abandon, on attendait le Messie, mais on ne sait pas quand est-ce que le Messie va arriver. Et alors, le message que l'ange vient annoncer aux bergers, c'est le message d'espoir. Il vient leur dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'aujourd'hui, il est né le sauveur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais rappeler à quelqu'un ce matin que quelles que soient les réalités que vous pouvez connaître dans votre vie, quelles que soient les choses difficiles que vous pouvez traverser, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas dit les derniers mots, aussi longtemps que vous n'avez pas attendu le Seigneur vous abandonner dans cette situation, vous pouvez encore espérer. Parce que même au moment où vous n'avez pas imaginé, l'action de Dieu et la présence de Dieu peut être un secours pour votre situation. Alléluia. La réalité de l'être humain, c'est que nous passons par des moments difficiles et nous avons besoin du secours de Dieu. J'ai lu quelqu'un qui a donné un adage, il a dit, l'être humain, que vous soyez qui, que vous soyez spirituellement outillés. En tant qu'être humain, nous faisons et nous sommes toujours candidats aux difficultés. Alors il disait, Dieu quand il nous a créés, il a mis l'âme de Dieu dans un verre. C'est ça l'expression qu'il a utilisée. Uko na roho ya Mungu katika verre njoni ni mu Kiswahili. Katika kirauli. C'est-à-dire, n'importe quand, tu peux tomber et te déchirer. Il était en train de montrer que tu as un cœur dur, tu as quelque chose de précieux, mais tu le portes dans une vase d'argile. C'est ce que Paul va dire. Il dit, Dieu, il a mis à nous les trésors, mais nous portons ces trésors dans des vases d'argile. C'est pour cela que nous passons toujours par des moments difficiles, mais à travers ces moments, nous avons besoin du secours de Dieu. Et ce matin, nous venons rappeler que la naissance de Jésus, c'est un secours pour nous qui passons par ces moments difficiles. Répondons à la deuxième question. Pourquoi Jésus, qui était Dieu, il a accepté de porter les corps? Pourquoi Jésus accepte de porter les corps pour nous secourir? Hier, quand nous étions à la cellule, et ceux-là qui ont eu la possibilité d'être à la cellule pendant la semaine, nous sommes revenus sur cette méditation. Et là où nous étions, nous nous sommes posé la question de dire, est-ce que Dieu était obligé de porter les corps pour nous secourir? Est-ce qu'il était obligé? Je ne sais pas quelle est votre réponse personnelle. Vous pensez que Dieu était obligé de porter les corps, lui qui est Dieu? Il pouvait nous sauver autrement. Il n'était pas obligé. Il pouvait nous sauver miraculeusement. Il pouvait le faire dans sa toute puissance. Mais il a choisi délibérément de porter les corps. Et le fait que Jésus a porté les corps pour naître dans la nature humaine nous enseigne quelques vérités importantes que je vais souligner ici. La première chose, Jésus apporta les corps. Il a montré qu'il est la manifestation de l'amour réel de Dieu. Cet amour qui le pousse à venir partager nos souffrances pour montrer qu'il combattit avec nous. Jésus a accepté de naître d'une femme pour montrer que l'amour de Dieu est tel qu'il veut combattir avec nous dans nos souffrance. Il vient s'asseoir dans la poussière avec nous. Il vient palper la réalité de notre vie afin de nous faire comprendre que l'amour de Dieu se manifeste envers nous dans toutes les situations que nous pouvons vivre. Je l'ai déjà dit un jour ici, je le rappelle encore. Quand Jésus vient nous visiter, il accepte de passer par les conditions les plus difficile possible. Il est né dans une crèche. Et vous vous rappelez, Jou, je vous ai déjà posé la question de dire, qui est déjà né dans une crèche ici? C'est-à-dire, au moins, Tachie, nous sommes nés dans des hôpitaux, nous sommes nés quand il y avait réellement des choses. Mais Jésus, il va naître dans une crèche. C'est-à-dire, quand tu arrives devant lui et tu dis, bon, la vie était compliquée, il te dira, au moins toi, tu étais né dans un hôpital. Moi, c'est dans une crèche. Jésus, quand il affronte la réalité, il va fuir. La fuite de Jésus, ce n'était pas une fuite urbaine. C'était une fuite nationale et internationale. C'est le président, c'est le gouvernement qui te cherche. Bon, je ne sais pas. On a plusieurs histoires, chacun a son histoire. Qui a déjà été poursuivi par le gouvernement ici? Que c'est un ordre gouvernemental. Jésus, lui, il faut aller au-delà des limites de son pays parce que la chose est difficile pour montrer qu'il traverse les moments difficiles que l'être humain traverse. Jésus a été trahi. Il n'a pas été trahi par un ennemi, il a été trahi par un proche. Celui qui garde la caisse. pour montrer que nous serons trahis. Mais lui, il est allé au-delà. Trahi par celui qui est le plus proche. Jésus a été tué par les personnes qui l'ont servi. Il a guéri leurs malades. Quand il a multiplié les pains, certains étaient là, ils ont mangé de ce pain-là. Ce sont les mêmes personnes qui, le dimanche de Ramon, étaient en train de chanter Hosanna, fils de David. Et alors, la semaine prochaine, crucifiez-les. Je me dis, Jésus, quand il est crucifié, il regarde celui qui était en train d'en donner les Hosanna. C'est lui qui se tient pour dire crucifiez-les. Jésus accepte de venir porter le corps pour passer par toutes ces situations. Et quand il passe par toutes ces situations, il est en train de nous offrir une pédagogie qu'il accepte de souffrir avec nous. C'est pour cela que lorsque vous passez par un moment difficile, pour Jésus, il vous comprend. Même si vous ne pouvez pas avoir des mots pour expliquer. Vous savez, il y a des fois qu'on passe par des situations, toi-même on te dit d'expliquer, tu ne sais pas comment expliquer. La réalité te dépasse et que tu te dis, bon, et même quand tu n'as pas de mots pour expliquer ta souffrance, rappelle-toi que celui qui a accepté de porter le corps, qui a accepté de venir connaître la réalité humaine, il comprend tes souffrances, il comprend ta douleur. C'est pour cela que nous chantons à Disa, Anajua Mateso Yetu. Même quand vous n'avez pas été à mesure d'expliquer, il connaît c'est quoi, le travail finir, il sait c'est quoi, la souffrance que tu endures à travers cette situation. Il connaît c'est quoi aller à Birere et rentrer dans Haukuzi Shakitu. Il connaît. Il a porté la chair. Il sait. Arrivé à la maison, les enfants te disent « Asseme kesho ha tout asoma kama kila mutu ha lipa 50 » alors que tu n'as payé que 15 dollars. Il a porté la chair pour combattre avec nous dans notre réalité. La deuxième chose que Jésus est en train d'affronter par la chair qu'il porte, il vient proclamer clairement l'échec du mal et inaugurer le temps de la nouvelle saison. Et le texte que nous avons lu à Ésaïe montre que dans la présence de Dieu, les choses vont changer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu est présent dans notre réalité, les choses qui étaient amères deviennent douces. Les choses qui étaient difficiles deviennent possibles. Et c'est pour cela que lorsque vous marchez dans la foi, vous témoignez qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Parce que même lorsque vous passez par des moments difficiles, la Bible dit, Dieu fait concourir tout pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faut aller demander Joseph, il va vous dire, même les gens qui peuvent vouloir faire du mal, ils n'y arriveront pas. La présence de Dieu change les choses qui étaient difficiles à des choses faciles. Et Jésus vient proclamer cela. Il vient inaugurer l'ère de la restauration, l'ère à travers laquelle les moments qui nous ont été difficiles vont maintenant être des moments de louange. C'est la chose qui va être annoncée par l'ange au berger. Maintenant, je viens vous annoncer une bonne nouvelle pour tout le peuple. Tout le monde se réjouira parce que le Sauveur est né. Jésus est venu pour proclamer l'ère du changement. Quand j'étais en train de réfléchir sur ça, je me suis rappelé du texte qui parlait de la veuve de Naïn. La Bible dit qu'il y avait une veuve à Naïn qui avait un seul enfant. Et cet enfant est décédé. Alors, pendant qu'ils étaient en train d'aller à l'enterrement, Jésus vient et les rencontre. Et quand Jésus les rencontre, il leur demande de faire descendre le cercueil. Et Jésus parle à la femme. Et la femme qui était en train d'aller être enterrée s'est levée. Et quand il s'est levé, tout le monde s'est rendu compte que vraiment Dieu est grand. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je réfléchis sur la résurrection de cet enfant, de la veuve de Naïn, Je me rends compte que Dieu, dans nos réalités, c'est la vie qui change la mort à vie. La réalité, c'est qu'on était en train d'apporter la mort à l'enterrement. Mais quand on a rencontré la vie a changé la mort à la vie. Et ceux qui étaient en train d'aller à l'enterrement, ils sont rentrés à la maison en train de rendre gloire à Dieu. Je prie que celui qui accorde la vie te rencontre dans ta situation. Afin que les choses que tu penses que c'est déjà fini, ces choses se relèvent au nom de Jésus. Afin que là où les gens ont dit, tu ne réussiras pas, que tu réussisses au nom de Jésus. Que ceux qui voulaient t'accompagner à l'enterrement rendre avec toi en chantant et en glorifiant le Seigneur. Alléluia. Quand la vie rencontre la mort change à la vie. La troisième chose, Jésus, par les pores de son corps, du corps humain qu'il accepte de prendre avec lui, Jésus qui porte le corps, il veut venir déclarer que même la mort et la tombe n'auront pas les derniers mots sur ce qui appartient à Dieu. Et ça, c'est la Pâque. Jésus vient porter le corps parce qu'il voulait aller jusqu'à la croix. Il meurt à la croix. Il descend dans la tombe. Et la Bible dit, le troisième jour, il se relève afin de déclarer tout haut qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la tombe. J'aime un chantre de ce pays qui a dit, Jésus a été enterré dans une terre qui n'était pas à mesure, qui n'était pas structurée pour le contenir. Et la terre a été obligée de le relâcher parce qu'il était fils de Dieu. Jésus porte le corps afin de nous faire comprendre que même la mort ne dira pas les derniers mots sur notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, même la mort ne dira pas les derniers mots sur ta vie au nom de Jésus. Le texte des psaumes dit, nous ne mourrons pas, nous vivrons pour raconter les merveilles de Dieu. Et Jésus, il fallait qu'il porte le corps afin qu'il a vécu comme nous. Les gens l'ont vu comme nous tous, mais à travers cela, il va entrer dans la mort, dans la tombe, mais la tombe ne dira pas les derniers mots sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient, ou Jésus arrive dans notre réalité, afin de permettre que les mains qui étaient affaiblies soient affermies et que nous puissions continuer la marche. Je voulais te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons un Père qui combattit avec nous dans nos souffrances. Il sait ce que nous ressentons. La présence de Jésus, c'est une annonce officielle que Dieu vient habiter avec nous. Il s'appelle Emmanuel, celui qui marche avec nous dans nos réalités. Je vais te rappeler aussi que nous avons un Père qui a vaincu toutes les tentations du monde. Il a été tenté comme nous, mais à travers tout cela, il en est sorti vainqueur pour nous annoncer que même la tentation que tu es en train d'affronter, la présence de Dieu suffit pour que tu en sortes vainqueur. Je veux te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons un Père qui a vaincu la mort. Et même devant la mort, nous chanterons la gloire de Dieu. Même devant la mort, nous déclarerons que nous avons un Dieu qui a porté le corps et qui, la mort, n'a pas réussi à le maîtriser. Devant Dieu, la mort n'a rien à faire. La mort est maîtrisable par Dieu. Et je vais te dire que si Dieu est à toi, et si Dieu marche avec toi, la mort est maîtrisable devant toi. Parce que celui qui a porté les corps, il a porté ses corps pour devenir une pédagogie pour l'être humain. Afin que l'humain comprenne que nous pouvons être dans les corps, passer par des moments difficiles, mais la présence de Dieu est la chose qui suffit pour que nous soyons affermis et que nous continuions à avancer. Je prie que le Seigneur t'aide afin que les réalités que tu traverses, tu sois à mesure d'aller au-delà et de voir ces réalités comme des futilités parce que tu as la présence de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.